L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure de pointe, une émission qui prend soin de vous et qui vous emmène en week-end. Prendre soin, quelle belle expression. On a tous fait l'expérience apaisante et réconfortante qu'une personne prenne soin de nous. On a tous aussi eu l'occasion, saisie ou non, de prendre soin de l'autre. Les parents prennent soin de leurs jeunes enfants, les enfants prennent soin de leurs parents vieillissants, les époux prennent soin l'un de l'autre, les amis prennent soin les uns des autres, les bénévoles prennent soin des personnes isolées et des soignants aussi prennent soin des malades. À l'aube de la Journée mondiale des malades et du Dimanche de la Santé, ce 11 février, je vous propose de donner la parole à deux personnes qui prennent soin des malades et souvent des malades en fin de vie.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Philippe Desguiral, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin oncologue, vous exercez à l'hôpital de Tarbes et à vos côtés, ou en face de vous plutôt, Sabine Barbecombe, bonsoir.
Bonsoir Anne-Rose.
Vous coordonnez la pastorale de la santé dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. L'un et l'autre, vous allez nous expliquer ce que signifie dans votre quotidien cette expression que je viens de dire, prendre soin des personnes en fin de vie. C'est vraiment le sujet particulier qui va nous intéresser ce soir. D'abord, on va s'interroger sur ce qu'est la fin de vie et peut-être aussi sur ce qu'elle n'est pas. Est-ce qu'on peut la définir, cette fin de vie, Philippe Desguiral?
Moi, je suis oncologue, donc je vais parler de ce que je vis, de ce que j'ai partagé jusqu'à présent. Donc la fin de vie en oncologie, en sachant que parfois des malades sont pris en charge avec un pronostic qui n'est pas très bon, et on sait que la fin de vie peut être plus ou moins courte, mais on ne le sait pas forcément, et même avec toutes les grandes connaissances, on ne peut pas préciser en termes de jours, de mois, mais on peut voir une personne qui se dégrade ou qui va de moins en moins bien. On connaît aussi le pronostic de certaines maladies avec les équipes. Donc on voit aussi quand quelqu'un est en ce qu'on appelle, c'est un terme qu'on emploie en médecine, la phase terminale. Donc là on sait que on voit bien, vu cette déchéance, l'altération état général, on sait que, et souvent ça nécessite une hospitalisation, une prise en charge plus appropriée, on voit que la personne est extrêmement fatiguée.
C'est-à-dire qu'il y a des signaux quand même qui nous permettent de dire, ben, là on rentre dans la phase de la fin de vie.
Voilà, donc une très très grande fatigue, des difficultés peut-être à communiquer, pas forcément des douleurs ou autres, mais en tout cas un amaigrissement important. Enfin, ça c'est de façon générale. Voilà, et donc là la tension est bien sûr beaucoup plus importante et le soin devient extrêmement important à ce moment-là. Mais à aucun moment on ne peut dire il va se passer ça dans 2 jours, dans 3 jours, dans 5 jours.
En fait, chaque personne a une fin de vie qui lui est propre, évidemment, avec des signaux qui vont se manifester vraiment de manière bien particulière, et peut-être que ce sera très très différent pour la personne d'à côté.
C'est tout à fait ça. Souvent, le grand public, il pense que les soignants, que les médecins peuvent dire exactement comment ça va se passer et à quel moment, mais non. Plus j'ai de l'expérience et plus j'avance et plus je vieillis et moins je peux parler de ces choses-là et de les annoncer et les prévoir.
Il y a la notion de temps qui est importante dans la fin de vie. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois que c'est long. On entend parfois les gens dire c'était long, il n'en finissait pas de mourir, il a eu une fin de vie éprouvante parce que très longue, trop longue. Cette notion de temporalité, elle est importante pour vous, soignants ?
Oui, elle est importante. Maintenant, tout dépend ce qu'on a réussi à communiquer et partager avec la personne. Est-ce qu'elle est bien au courant de ce qui se passe? Est-ce qu'on l'a partagé avec elle? Parce qu'il y a des personnes qui nous posent des questions précises, et même sans nous poser des questions précises, c'est le malade, c'est son corps, c'est son esprit. Il peut avoir des choses à dire, des gens à rencontrer, des choses à organiser. Et donc, les soignants ont un peu une responsabilité d'accompagner et de permettre de ces instants de vie, parce que la personne qui est en fin de vie, enfin c'est une lapalissade, mais elle est en vie. Et donc tous ces instants sont des instants de vie, difficiles peut-être pour la famille, et la famille, bien sûr, je comprends, hein, que c'est très douloureux, peut trouver que ça dure, que c'est difficile, Mais ce sont des instants de vie et peut-être qu'ils seront, après, quand il y aura eu le départ, peut-être qu'ils seront appréhendés de façon peut-être plus positive qu'on ne pense.
Parfois, on a l'impression qu'il faut faire vite, qu'il faut enclencher tout un système de soins, d'accompagnement très très vite parce que c'est la fin de vie, qu'on se dit vite, faut se dépêcher, on n'a plus le temps. En fait, ça peut durer longtemps, la fin de vie.
Oui, après, on peut être surpris aussi. Hein. Il y a parfois des maladies qui vont évoluer plus rapidement ou des états qui vont s'aggraver beaucoup plus rapidement. Mais c'est sûr qu'il faut aussi anticiper. Nous, au niveau des soignants, au niveau des médecins, généralistes, l'idée, c'est aussi d'anticiper, d'adapter le confort, d'adapter la prise en charge, le domicile, pour que la personne puisse mieux communiquer, et puis surtout, c'est être le moins inconfortable possible. Mmh. C'est ça le plus important.
Alors, cette notion de confort, elle est vraie en milieu hospitalier, elle est vraie aussi à la maison, parce qu'il y a des personnes en fin de vie qui ne sont pas hospitalisées. Alors ça, Sabine Barbecombe, c'est aussi une réalité que vous connaissez bien, engagée dans la pastorale de la santé du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Vous allez à la rencontre, avec vos équipes, à la rencontre de personnes qui sont malades, et pour certaines en fin de vie, pas forcément des personnes âgées peut-être d'ailleurs, qui sont soit chez elles, soit en milieu hospitalier. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors c'est vrai que les équipes du service évangélique des paroisses qui sont rattachées au... Non, le service évangélique des malades qui sont rattachés aux paroisses, pardon. C'est vrai que eux, tous les bénévoles qui interviennent et dans les EHPAD privés et aussi au domicile des personnes.
Ouais.
Et globalement, c'est plutôt des personnes âgées qui meurent encore à domicile. Hein, ou alors des personnes qui sont aussi prises en charge par un système d'hospitalisation à domicile ou le réseau Arcade.
Mmh. Voilà. Vous pouvez nous parler en deux mots de ce réseau Arcade, nous expliquer ce que c'est?
Alors, en fait, c'est quand un malade, quand son état et l'accompagnement familial, je dirais aussi, hein, toute une structure à l'extérieur, permet que cette personne puisse être hospitalisée chez elle. Il y a tout des systèmes qui se mettent en place. Alors ici, sur le département, on parle d'HAD, de réseau Arcade, mais les noms diffèrent d'un département à l'autre. Ça peut être du privé, ça peut être attaché à un hôpital public. Et ces systèmes permettent aux malades d'être pris en charge à la maison comme s'il était en structure, mmh. avec le lien avec les médecins traitants, avec des cabinets d'infirmiers privés, avec le service de soins à domicile. Voilà, tout un tas de structures qui permettent le confort du malade.
Et on a une idée du nombre, du pourcentage de personnes que ça représente. Est-ce que les gens préfèrent finalement vivre leur fin de vie dans cet environnement, chez eux, quoi, à la maison, ou est-ce qu'ils sont plus rassurés quand ils sont dans un milieu hospitalier? Ça dépend peut-être des personnes. Philippe Deguéral.
Alors, il y a des personnes qui sont seules, qui vivent seules et qui Alors, ce n'est pas inéluctable, hein, mais quand on est vraiment seul chez soi, à son domicile, s'il n'y a aucune famille qui peut, ou d'amis qui peuvent vivre ou passer beaucoup de temps, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a des services de soins de suite qui permettent de le faire, de les accueillir. Et puis, il y a aussi, imaginez des petits-enfants à la maison, où il y a un environnement, sur le plan aussi architectural, géographique, des petits appartements qui font qu'on ne va pas pouvoir mettre un lit médicalisé. Enfin, il faut s'adapter. Et puis, psychologiquement aussi, la famille, ça peut être compliqué pour une famille. Il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que tout le monde partage ça, le patient ou la patiente. Et la famille, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est là on parle de la phase terminale ou même phase très avancée et ça peut ne pas être facile. Maintenant, quand même, dans la grande majorité des cas, c'est le patient a envie de rester à domicile. Il faut quand même en tenir compte. Mais dans notre société, on voit bien On sait bien qu'il y a quelques années, les grands-parents étaient au domicile et les petits-enfants voyaient les grands-parents décédés au domicile. C'était quelque chose qui était plus culturel qu'aujourd'hui. La mort
Ça
est
faisait
un peu,
partie de la vie. Ça
et
fait...
voilà, et la mort est un peu cachée aujourd'hui. On a même parfois des cas, je ne porte aucun jugement, mais des cas, dès qu'il y a une aggravation, il y a une demande d'hospitalisation pour être en dehors du domicile.
Pourquoi? Parce que la fin de vie est insupportable
Oui, voilà, tout à
pour
fait. Mais
l'entourage.
insupportable à tout point de vue. Après, il y a des gens aussi qui nécessitent des soins particuliers, techniques, qui ne sont pas forcément possibles, ou du moins psychologiquement et physiquement pour la famille et le patient.
Que se passe-t-il quand, pour cette fin de vie, le patient ne peut plus s'exprimer et n'a pas eu le temps avant d'exprimer son souhait, son désir ou ses appréhensions? Philippe Deguiral.
C'est-à-dire que le patient serait dans le coma ou bien
Ou dans
dans
l'impossibilité de
la possibilité de
s'exprimer,
s'exprimer.
mais conscient?
Oui, il est conscient. Alors, on doit de toute façon, on se doit de ce que je disais tout à l'heure, que sa vie soit le moins inconfortable possible. Il faut savoir aussi que les soignants, maintenant, la plupart des cas, ont acquis une grande expérience et on sait même que. Quelqu'un qui est dans le coma, par exemple, on doit pouvoir percevoir des signes de douleur, des moments d'inconfort, et qu'on doit s'en servir pour l'accompagner et le traiter. On peut aussi quand même partager avec la famille, hein, bien entendu. Bien entendu, il y a les directives anticipées aujourd'hui, hein, on doit pouvoir, tout le monde, hein, tous les auditeurs doivent le savoir. Peuvent écrire ces directives anticipées, même sur une feuille blanche, les faire connaître. Elles sont valables pendant 3 ans.
Les directives anticipées, en fait, ce sont les souhaits de la personne pour sa fin de vie, en fait.
Exactement, tout à fait.
Et elles sont révocables à tout moment. Faut pas oublier ça.
Voilà.
Donc
Donc
elles
on peut
sont
changer,
valables
on peut
3 ans
changer d'avis.
et révocables à tout
Voilà.
moment.
Oui.
Et on doit les confier à quelqu'un ou...
On peut les confier à n'importe quelle personne et on peut aussi les écrire. On peut ne pas y avoir pensé ou ne pas avoir eu envie de le faire. Et lors d'une hospitalisation, avoir pris du recul et à ce moment-là, les écrire et les confier aux soignants ou aux personnes qui sont présentes.
Ce qu'on comprend quand même à travers ce que vous dites, c'est que la fin de vie, ça se prépare et j'ai presque envie de dire ça se bichonne. Ah, ça vous laisse.
Non,
Oui,
non,
c'est l'expression qui nous laisse.
Mais c'est vrai que quand on accompagne quelqu'un, moi je ne j'ai des patients qui vivent des choses à domicile, mais je suis présent plutôt en hospitalisation. Quand vous parlez de bichonner, ça me fait penser que dans un service où on pratique des soins palliatifs, des soins de support, c'est-à-dire aider au traitement des symptômes des patients et à leur confort et à leur qualité de vie, il y a beaucoup de vie et beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur, beaucoup de calme, beaucoup d'écoute. Et ça correspond à bichonner en fait.
C'est ça, prendre soin, en
Oui,
fait, au
voilà, c'est
final.
ça. Et le soin, là j'ai prononcé le mot de soin palliatif, mais c'est du soin d'abord. Et les valeurs, l'éthique qui tourne autour des soins palliatifs, c'est la même pour tous les soins. Et les soins palliatifs ne sont que des soins.
Alors justement, on va s'arrêter quand même un instant sur les soins palliatifs pour peut-être prendre le temps de les redéfinir et expliquer ce qu'ils impliquent ou en tous les cas ce qu'ils prévoient dans le contexte idéal où ils peuvent être mis en place. Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs?
Alors déjà, le terme soins palliatifs, c'est un terme très français. Dans d'autres pays européens, on emploie le terme de soins continus, par exemple, qui a peut-être une notion plus explicite. Mais les soins palliatifs, ce sont des soins. Donc ce n'est pas que des médicaments, une prise en charge médicale, c'est un accompagnement global d'un patient, d'un malade, qui ne va pas guérir, dont on sait que ces soins ne sont pas là pour guérir. Mais pour la qualité de vie et pour. Alors, il y a ce qu'on appelle les démarches palliatives. Quand on sait que quelqu'un a un cancer grave, on ne va pas guérir, mais on peut améliorer des choses. On peut peut-être améliorer le confort, allonger un peu sa vie. Et puis, il y a le soin palliatif en phase terminale. Mais en tout cas, les soins palliatifs ne sont pas destinés uniquement et ne sont pas pratiqués uniquement dans les unités de soins palliatifs. J'allais dire même que c'est une minorité dans les unités de soins palliatifs, mais sont pratiqués à domicile, sont pratiqués dans les services de cancérologie, sont pratiqués dans des services de spécialité, des malades par exemple qui ont une maladie grave pulmonaire vont pratiquer des soins palliatifs dans un service de pneumologie. Et les unités de soins palliatifs dont on parle beaucoup et qui sont très 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 importantes servent pour les malades qui ont des symptômes complexes. Mais il faut savoir que les unités de soins palliatifs ont des fonctions de formation, de recherche, et puis d'aide pour les services, parce qu'on ne meurt pas forcément dans une unité de soins palliatifs. Ça peut être un court séjour, et puis après, le patient qui aura peut-être une amélioration de la pratique, de ses symptômes pour aller dans un autre service ou à domicile. Mais on fait des soins palliatifs à domicile, on fait des soins palliatifs en hospitalisation.
EHPAD aussi.
Et en EHPAD.
Alors, dans les soins palliatifs, il y a plusieurs disciplines finalement, parce que il y a les protocoles de soins techniques, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin, les gestes techniques, médicaux, et puis il y a toute la dimension de prendre soin. Alors finalement, c'est ce que vous faites l'un et l'autre, à la fois le geste technique et puis visiter la personne, avoir du temps sans être là pour administrer un médicament ou pour poser un geste particulier. Ça, c'est ce que vous faites, Sabine Verbecombe.
Oui, parce que j'ai aussi la casquette d'aumônier. Hein, je suis aussi l'aumônier de l'hôpital de Tarbes, entre autres. Et c'est vrai que les services d'aumônerie, hein, on est là pour assurer une présence auprès du malade et auprès de la famille. On est là pour écouter. On est là pour simplement rester en silence. Aussi pour entendre vraiment les désirs profonds des malades qui, quelquefois, alors qu'il peut y avoir encore des traitements actifs, nous expriment ce qu'ils n'osent pas exprimer aux médecins ou à leur famille, le désir de tout arrêter. Ils en ont assez.
Et, de tout arrêter, et nous, c'est-à-dire d'arrêter les soins.
Les traitements, voilà. Et on est là pour autoriser ces malades à exprimer ça. Et des choses j'ai plusieurs cas en tête, dont un cas récent, qu'ils n'osent pas dire à leur famille parce qu'ils le ressentent comme une façon de renoncer, de faire de la peine à leur famille.
Une culpabilité de la personne malade ?
Éventuellement, mais en même temps, le désir d'arrêter tout traitement inconfortable ou douloureux ou fatigant est plus fort. Ce désir-là est plus fort.
Et ça, quand vous recevez ça, vous en parlez avec les médecins ? Vous vous complétez,
oui,
en fait ? C'est ça qui est intéressant.
Il
n'y
a pas encore très longtemps, justement, à l'hôpital, j'ai entendu ça de la part d'un malade et qui m'a vraiment exprimé à plusieurs reprises le fait qu'il voulait... Alors, il n'était pas encore en soins palliatifs, mais dans un état quand même assez sérieux, et il a exprimé le désir à deux reprises différentes qu'il voulait aller en soins palliatifs. Et c'était clair, il voulait rentrer en soins palliatifs. Et du coup, je l'ai écouté, j'ai essayé de le faire reverbaliser, et je suis allée faire part de ce qu'il m'avait dit, en mettant bien sûr des réserves, à l'équipe soignante.
Comment vous recevez ça, vous, Philippe Desguiral, en tant que médecin ?
Alors, il y a un terme qu'on emploie dans le grand public qui... pas très beau, mais il veut dire ce qu'il veut dire, c'est l'acharnement thérapeutique. Dans un langage plus châtié, on dit obstination déraisonnable, c'est ce qui est écrit dans la loi. Et donc l'obstination déraisonnable est hors la loi depuis quelques années en France. Hein, c'est un médecin, quand on pense qu'un traitement, une prise en charge a plus d'inconvénients que d'avantages, a plus de risques que de bénéfices, ça s'appelle de l'obstination déraisonnable. Et ça pourrait être une tentation chez les médecins de toujours aller plus loin, parce que aussi il y a des malades qui pensent des choses quand ils n'étaient pas malades, et quand on devient malade, on a envie aussi parfois de traitement. Mais donc c'est là où ça demande un dialogue, une écoute de chacun, et d'expliquer pourquoi on va faire tel ou tel traitement. Mais c'est certain que, en tout cas, le malade a sa, à sa liberté de refuser. Enfin, en tout cas, en la théorie, l'idéal, c'est ça. C'est qu'il peut refuser un traitement, refuser un soin, s'il considère que c'est insupportable pour lui. Et donc, ça nécessite une écoute continuelle, enfin, avec l'équipe soignante. Et l'équipe, c'est très large. Sabine parlait de sa mission, de son rôle. Il y a des bénévoles, il y a beaucoup de professionnels. Quand on parlait tout à l'heure des soins palliatifs, c'est l'idéal, c'est qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent.
Oui.
Et il n'y a pas que des soignants. Alors dans les unités de soins palliatifs, il y a énormément de professionnels, mais l'idéal, c'est ça, c'est que même au domicile, il puisse y avoir des soignants, mais on peut avoir des gens qui vont s'occuper du confort, qui vont s'occuper de massage, qui vont s'occuper
de... C'est une équation entre prendre soin du corps, de la tête, du cœur, c'est...
Bien sûr.
De l'esprit.
Bien sûr.
Il y a une dimension spirituelle dans... Oui, quand on parle de prendre soin d'une personne malade en fin de vie, il y a une dimension spirituelle qui est importante et à laquelle peut-être vous devez veiller à faire la place en tant que médecin.
Bien sûr, et les services qui ont beaucoup travaillé, qui ont pris du recul par rapport à ça, doivent énormément en tenir compte. Donc spirituel n'est pas toujours équivalent à religieux, mais en tout cas, on doit tenir compte hein, des croyances, des espoirs et de ce que veut le malade, parce qu'on sait qu'il y a des différentes façons d'aborder ces instants, même dans le comportement aussi, dans l'expression, dans la liberté qu'on peut se donner de parler de ces angoisses, voilà.
On va marquer une courte pause et puis on se retrouve juste après pour poursuivre cette discussion sur la fin de vie, comment prendre soin des personnes malades en fin de vie.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire. Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Non, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour. jusqu'à la fin des jours.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.
Voilà, à l'aube de la Journée mondiale des malades et du Dimanche de la santé, ce dimanche 11 février, je vous propose donc ce soir de donner la parole à Philippe Deguiral, qui est médecin oncologue à Tarbes, et Sabine Barbecombe, qui est en charge de la pastorale de la santé dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Alors, dans la première partie, on a expliqué ce qu'était la fin de vie et ce qu'elle n'était pas aussi, et puis cette dimension de prendre soin des personnes malades en fin de vie. Sabine, vous avez parlé un petit peu des familles. Alors, les familles sont présentes ou pas, en tous les cas, on a bien entendu qu'il y a toutes des équipes de soignants et de bénévoles non soignants qui sont mobilisés pour accompagner les personnes en fin de vie. Quid des familles ?
Alors, comme il a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a perdu le rapport à la mort, même si la mort fait partie de la vie, on a... mis de côté la mort, donc ça fait peur pour les familles. Et du coup, souvent, les familles sont vraiment décontenancées. Elles sont, enfin, c'est pas le terme exact, elles savent pas comment se comporter, elles en ont peur. Il y a aussi, bien sûr, le côté émotionnel qui rentre en jeu, mais elles savent pas ce qui va se passer. C'est une inconnue, même si on explique, si les médecins sont très présents et expliquent, ça reste quand même pour un certain nombre de personnes, une grande inconnue. Et on est là aussi, en particulier les équipes d'aumônerie, mais je pense que toutes les équipes qui interviennent pour les soins palliatifs font pas pareil. On est là aussi pour donner du temps aux familles, pour que leur faire comprendre que leur rôle est aussi d'être là pour la personne qui s'en va, pour, tant qu'il est temps, dire ce qu'elles ont à dire. Moi, vraiment, j'insiste là-dessus.
Vous jouez un grand rôle auprès des familles, en fait. Vous êtes là
Ça dépend des familles, mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, bien sûr. On est là pour leur dire, mais tant qu'il est temps, dites à votre papa, votre maman que vous l'aimez, que vous lui demandez pardon, ou vous lui dites merci.
Vous sentez que ça les rassure, que la personne malade est rassurée de voir que les proches sont consolés par une tierce personne,
alors, qui sont aussi pris en charge. Alors, selon les cas, on peut avoir des contacts, surtout avec les malades.
Oui.
Certaines fois, plutôt avec les familles, et d'autres fois, avec les deux. Ça dépend. Donc, oui, les malades, quand ils perçoivent qu'on est là aussi pour les familles, ils sont soulagés, bien sûr. Et les familles sont aussi contentes de savoir qu'on est là.
Philippe Deguiral.
Oui. Et l'inverse, c'est-à-dire que on peut aussi donner la liberté aux familles. Les liens intrafamiliaux, ils existaient avant la maladie et ils doivent se poursuivre. Les difficultés de communication, s'il y en avait avant, ils vont se retrouver à ce moment-là. Et je crois qu'on a un rôle à jouer justement de donner cette liberté aux familles, de dire les choses, de partager les choses. De laisser la personne souffrir, exprimer sa souffrance et ses peurs. Hein, la fameuse phrase « garde le moral, c'est 50% de la guérison », cette phrase, parfois, elle casse la communication. Et donc, de dire « tu peux toucher », vous pouvez toucher, et même à la limite le faire devant la famille, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on appelle le colloque singulier, mais que ce soit une infirmière ou un médecin, de toucher le malade et proposer à la famille d'être à côté de nous pour faire la même chose.
Il y a une pédagogie, en fait.
Oui, peut-être. Enfin, il y a peut-être un accompagnement, ouais, mais c'est peut-être lié aussi à l'expérience ou à, je ne sais pas, c'est le soin.
Oui, c'est-à-dire que c'est instinctif, en fait. Vous, oui. vous sentez les choses qu'il faut, les gestes qu'il faut faire et les paroles dont la personne malade ou les membres de la famille ont besoin.
Si je puis me permettre, mais c'est vraiment personnel, oui. Je touche plus les malades aujourd'hui que je ne le faisais il y a 20-30 ans. Voilà, ça c'est... Mais il faut que tout le monde ose. En tout cas, il faut que tout le monde ose. Et donner de la liberté, dans un sens ou dans l'autre, aux malades et à la famille, de partager des choses, de pleurer ensemble. Parfois, les gens n'osent pas ou ils vont sortir de la chambre pour pleurer. Mais pleurer avec, c'est vivre avec. Enfin, c'est de l'humain, c'est de la vie, c'est...
Philippe Desguirelles, vous êtes médecin oncologue et donc vous accompagnez des personnes malades. Alors je voudrais quand même qu'on précise que depuis le début de l'émission, peut-être que ceux qui prennent l'émission en cours de route pensent qu'on parle des personnes âgées, mais on peut être malade sans être une personne âgée, puis on peut aussi être une personne âgée très bien portante d'ailleurs. Hein. Vous voyez dans vos services, vous accompagnez certainement des personnes qui sont malades mais qui ne sont pas âgées et qui vont partir en laissant peut-être des enfants jeunes. Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus, sur ce quotidien que vous avez en tant que médecin-oncologue ?
Oui, médecin-oncologue, et avec le personnel et avec les accompagnants.
Oui.
Et je suis pas un grand psychologue, mais on parle de transfert. Quand on voit quelqu'un qui a notre âge, voire qui est plus jeune, voire qui a... Maintenant, je deviens un peu âgé, j'ai 60 ans, il y a des patients qui ont 40 ans, qui pourraient être mes enfants, et qui ont des petits-enfants aussi. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile et compliqué, d'où l'intérêt de travailler en équipe et de partager, d'avoir des moments de partage pour cela. On doit accompagner, c'est plus difficile, bien sûr. C'est beaucoup plus difficile de voir une vie qui va peut-être s'écourter devant quelqu'un qui a 40 ans par rapport à une personne qui a 80 ans, qui va nous exprimer en disant, vous savez, moi j'ai vécu plein de choses, voilà. Parfois, ça peut être, c'est pas forcément facile non plus de mourir à 80 ans. Hein. Mais on voit des patients...
Et puis une maman de 80 ans qui s'en va, c'est toujours une maman.
Oui, et un papa aussi.
Et il a toujours envie de rester là pour s'occuper de ses enfants et prendre soin de ses enfants.
Et voir la naissance de son petit-fils quand la... Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Et ça me fait penser aussi que... Ça ne veut pas dire que la communication passe toujours mieux qu'on soit jeune ou qu'on soit âgé, ce que j'exprimais tout à l'heure, la liberté qu'on se donne de partager tout ça, parce que c'est tellement violent et on parle, certains disent, mais c'est... quand les parents voient que leurs enfants sont très malades, vont trouver ça d'une violence extraordinaire ou vont trouver...
Il n'y a pas que de la tristesse, il y a de la colère peut-être aussi, il y a de la révolte parfois.
Voilà,
que vous
c'est
devez
ça,
accompagner.
Tout à fait, de la révolte et puis de se dire mais pourquoi lui et pas moi ? Enfin, c'est vrai. Et puis aussi, il y a des choses aussi qui sont très difficiles, puisqu'on est dans la difficulté. Même si on a fait des progrès dans le traitement des symptômes, hein, j'en ai parlé au départ, c'est évident dans la formation et tout ça. Mais c'est pas toujours simple. Mmh. On n'arrive pas toujours à bien calmer toute la douleur et autres. On fait au mieux avec les meilleurs médecins et même voilà, on n'arrive pas toujours. Il faut le faire le maximum. Il faut avoir la meilleure technicité possible. L'empathie ne suffit pas. Il faut qu'on soit au maximum capable de traiter la douleur, de traiter des symptômes. Et là où ça devient compliqué parfois, c'est quand il y a ces symptômes qui persistent et qui rendent la vie difficile et la communication encore plus difficile, bien sûr.
Prendre soin, on comprend aussi que ça veut dire vraiment une équation entre le médical et puis l'humain, même si évidemment ça ne veut pas dire que le médical n'est pas humain, mais enfin l'accompagnement que vous proposez en particulier avec les bénévoles qui sont engagés au sein de la pastorale de la santé. Comment on entend tout le temps les soignants dire on n'a pas de temps justement pour prendre correctement soin des personnes. Alors tout ce que vous nous décrivez depuis le début, cette équation entre le médical et l'accompagnement humain et spirituel, comment vous arrivez à le mettre en place alors qu'on entend qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas assez de personnes pour pouvoir le faire, pour pouvoir prendre soin correctement? Comment vous faites au quotidien pour prendre
alors,
soin des
nous,
malades
au niveau hospitalier ou dans les cliniques, en tant qu'aumônier, on a plus le temps. Et c'est vrai que c'est une chance qui nous est donnée de pouvoir prendre le temps. Pour le moment encore, on n'est pas à avoir un certain nombre de patients dans la journée. Si on a besoin de passer une heure auprès d'un patient, on passe une heure auprès d'un patient. Voilà. Et du coup, ça permet aux malades de s'exprimer, de prendre le temps de s'exprimer et d'établir une relation de confiance avec le bénévole qui intervient.
Ce qui est moins évident pour vous, côté soignant.
C'est certain que l'actualité et de ce qui se passe dans les établissements de santé, il manque du personnel médical et paramédical dans tous les services, dans le privé, dans le public. Et donc, ça demande une énergie incroyable. Et c'est vrai que toutes les personnes qui y travaillent sont fantastiques. Parce qu'on a de plus en plus de connaissances et de formations pour accompagner les gens, mais ça demande, les malades, mais ça demande effectivement du temps, de présence, de connaissances, de formation. Vous parliez d'équations, il faut les résoudre, on les résout comme on peut, on essaye.
Au cas par cas, ça veut dire ?
En tout cas, il y a des organisations. Il faut s'organiser, il faut évaluer les choses, et puis partager. On a parlé des soignants, il y a des psychologues, il y a des groupes de parole au niveau dans certains services, des groupes de parole où les soignants peuvent exprimer. Vous parliez de patients jeunes, il est évident que ça peut être très lourd à porter lorsqu'on rentre chez soi le soir, et que s'il y a des temps d'arrêt, des temps de réflexion dans le service, où on peut exprimer son mal-être par rapport à certaines situations, je pense que c'est bien pour tout le monde.
Pour prendre soin aussi de ceux qui soignent.
C'est tout à fait vrai.
Ouais.
C'est tout à fait ça.
Alors, Gabriel Attal, donc Premier ministre, a annoncé le 30 janvier dernier qu'un projet de loi instaurant une aide active à mourir serait examiné avant l'été 2024. Alors, l'aide active à mourir, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps. Et puis là, on a l'impression quand même que les gens se rapprochent. Alors, j'aimerais bien que vous nous disiez l'un et l'autre ce que vous en pensez de cette aide active à mourir, ce qui peut-être vous fait peur dans ce projet de loi. Mais pour commencer, nous expliquer qu'est-ce que c'est l'aide active à mourir ? De quoi on parle là ?
On ne parle pas de soins palliatifs, puisque les soins palliatifs, c'est améliorer le confort des patients et permettre de rendre la vie la moins inconfortable possible. Et en tout cas, de ne pas raccourcir la vie. On peut pratiquer dans les soins palliatifs une sédation qui va permettre à la personne peut-être d'être moins consciente et de laisser, j'allais dire, la nature faire les choses et de laisser la personne partir dans les meilleures dispositions possibles. Et l'aide active, c'est raccourcir la vie. Ce qui va à l'encontre du serment d'Hippocrate que j'ai prêté pour ma profession. Et il y a aussi des valeurs et une éthique qui est proposée à tous les soignants, d'accompagnement et des gestes à ne pas faire. L'aide active, c'est bien raccourcir la vie, soit par de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est un tiers, quelqu'un d'autre que le patient lui-même, qui va administrer un traitement qui va raccourcir la vie dans une situation difficile exprimée par le patient. Et le suicide assisté, c'est qu'on donne les moyens au patient, mais c'est des moyens médicaux, soit une perfusion, soit quelque chose à prendre par voie orale, mais la plupart du temps, c'est une perfusion. Et on demande au patient de bouger la molette de la perfusion pour faire passer une substance qui va raccourcir la vie du patient. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le milieu, entre guillemets, des soins palliatifs, c'est-à-dire des gens qui accompagnent dans le milieu oncologique, dans le milieu souvent des maladies chroniques, des maladies neurologiques, musculaires et autres, l'immense majorité des soignants ne sont pas favorables à ce changement de législation. C'est une réalité, c'est un fait.
Ils réclament plus de moyens pour les soins palliatifs,
bien
mais
entendu.
Ils ne réclament pas la mise en place de cette aide active à mourir. C'est
d'ailleurs, il y a eu un collectif de 13 associations et pas des moindres qui a répondu très simplement et qui a donné des arguments pour dire que l'euthanasie n'est pas un soin. Voilà.
Et pourtant, il est présenté là comme un droit pour les personnes malades.
Oui.
Une liberté ultime pour les personnes malades.
On peut comprendre d'abord que les gens qui sont en bonne santé, c'est souvent eux qui discutent des lois, aient peur de mal mourir, de mal vivre les derniers instants de vie. Ça, c'est quelque chose d'humain et personnellement, moi aussi, hein, je suis, j'ai pas envie que ça se passe mal quand je mourrai. Et donc, je fais confiance aux gens qui m'accompagneront, qui m'accompagneraient. Mais on doit, y a une différence entre avoir peur de mourir et vouloir mourir quand ça va pas bien, et puis vouloir qu'on vous tue.
Vous êtes en train de nous dire, Philippe Desguiral, que si les soins palliatifs étaient, avaient plus de moyens pour être vraiment bien mis en place partout, c'est-à-dire vraiment bien structurés comme ils sont censés l'être, en tous les cas, tels que la loi le prévoit, il n'y aurait pas, on ne chercherait pas cette, ce besoin d'aide active à mourir.
C'est une évidence que plus on promeut les soins palliatifs, et plus les demandes d'euthanasie diminuent. Ça, c'est une réalité. C'est moi, dans ma carrière jusqu'à présent, je l'ai constaté. Plus on utilise, mieux on utilise la morphine, mieux on utilise le traitement des symptômes, les demandes d'euthanasie diminuent, disparaissent. Voilà. Donc, pour les personnes qui travaillent dans ce type d'accompagnement, c'est pas un sujet.
Sabine Barbecombe, sur cette question.
Je crois que Philippe a tout dit, et je partage tout à fait ce qu'il vient de dire. On voit bien que, à partir du moment où les gens sont soulagés, sont confortables, ou le plus confortable possible, tout le temps où qu'il leur reste, et où ils sont encore en capacité de parler, leur permet d'avoir des liens avec leurs proches, et c'est du temps gagné, voilà. Qu'il n'aurait pas s'il y avait euthanasie ou suicide assisté.
Maintenant, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ne se passe pas forcément toujours très bien.
C'est ça.
Tout ne se vit pas toujours très bien. Et donc, je parlais tout à l'heure de sédation. La sédation fait partie des soins... c'est un moyen disponible dans les soins palliatifs qui est partagé, expliqué avec le patient et sa famille si nécessaire pour des douleurs incontrôlées, des symptômes incontrôlés. Et il n'y a pas d'hypocrisie dans cette pratique qui est parfois critiquée par certains. Quand on sédate, c'est-à-dire quand on diminue la conscience d'une personne, on ne raccourcit pas sa vie.
Qu'est-ce qu'on fait alors ? On la soulage ?
On diminue sa conscience. Et par là même, très souvent, on diminue la douleur et on a des moyens pour essayer de voir. Mais en sachant que parfois, ça peut être aussi transitoire. On peut très bien faire céder la sédation s'il y a des symptômes qui ont été mieux contrôlés.
On arrive au terme de cette émission, Philippe Desguiral, Sabine Barbecombe. Pour terminer quand même un mot, puisque ce dimanche 11 février, c'est le dimanche de la santé et c'est la journée mondiale des personnes malades. Cette journée leur est dédiée. Alors leur est dédiée pourquoi ? Alors évidemment dans l'église, on va pour prier pour elles et puis pour les soignants aussi, pour toutes les personnes qui les accompagnent, mais peut-être pas seulement, Sabine Barbecombe.
Alors... il faut distinguer le dimanche de la santé et la journée mondiale du malade.
Là, ça tombe le même jour, mais
là, ça tombe le même jour parce que c'est un hasard du calendrier. En fait, la journée mondiale du malade a lieu le 11 février, le premier jour des apparitions de
Notre-Dame,
Marie. Voilà.
Fête de Notre-Dame de Lourdes.
Exactement. Et donc, cette année, c'est la 32e journée de cette journée qui a été voulue par le pape Jean-Paul II. Mm-hmm. Donc là, c'est vraiment pour... une journée pour les malades, où on met les malades à l'honneur, si je peux dire, dans les paroisses. On peut proposer les sacrements des malades. Et après, il y a le dimanche de la santé. Et le dimanche de la santé, c'est une journée qui a été voulue à la fin des années 80 par un mouvement, par un groupe d'action catholique, pour mettre là les soignants et tous les bénévoles, les aidants, pour les mettre en valeur, pour que les paroisses, que tous les chrétiens se rendent compte qu'ils étaient entourés de soignants, d'aidants. Voilà. Et donc, du coup, lors de ce dimanche de la santé, il y a plusieurs propositions qui sont faites aux paroisses. pour mettre en valeur les soignants. Alors chacun s'approprie les propositions en fonction de ce qu'ils sont. Mais ça peut être, après la communion ou avant la communion, appeler tous les soignants, tous les aidants autour de l'autel. Ça peut être faire une croix en bois et demander à chaque personne qui intervient, qui arrive à la messe, de déposer sur cette croix ou à un moment autour de l'autel un lumignon pour prier pour les soignants. Voilà, chacun s'approprie la proposition et la fessienne.
Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on pense à eux que ce jour-là, mais enfin c'est quand même leur journée qui leur est dédiée.
Exactement.
Un grand merci à tous les deux pour votre éclairage et votre participation dans cette émission. Donc prendre soin des personnes malades et prendre soin en particulier des personnes malades en fin de vie. Merci beaucoup à tous les deux, docteur Philippe Desguiral et Sabine Barbecombe. On vous souhaite une très belle fête de Notre-Dame de Lourdes et puis un bon dimanche pour toutes les personnes malades et puis vraiment un bon dimanche aussi de la santé à toutes les personnes qui sont engagées via la pastorale de la santé dans leur diocèse pour accompagner et servir les personnes malades. Et tous les soignants, évidemment. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Anne-Rose.
Merci.
L'heure de pointe, Anne-Rose Jankovic.